affinités électives. Une émission proposée par Canal Academy.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Academy, merci de votre fidélité. Nous allons engager notre dernier enregistrement de l'année et c'est une très bonne chose car aujourd'hui nous allons nous pencher avec Daniel Salnave sur son dernier ouvrage, l'évoquer et discuter. Et son ouvrage, titré « Le fond de l'air est frais », est constitué de chroniques du XXIe siècle. Et donc c'est parfait pour terminer une programmation annuelle que de faire une sorte de rétrospective de l'air du temps sous la forme d'un dialogue. C'est l'un des avantages qui échoue aux journalistes qui interviewent des écrivains, c'est de pouvoir parler justement avec eux de leurs ressentis, de leurs sentiments, d'éclairer les faits du quotidien à la lumière de leur érudition, de leur expérience et aussi de leur sensibilité. Et j'espère que cette émission le permettra. Nous en avons tous besoin car je crois que c'est un sentiment partagé dans notre pays que d'être confronté à d'énormes tensions, d'énormes inquiétudes qui confinent parfois même à de l'angoisse. Les sujets publics croisent des inquiétudes plus personnelles. Tout cela crée, je le disais, des tensions très très fortes. Et pour les résoudre, il faut certainement de la bienveillance. Et de la bienveillance, dans le livre de Daniel Salnave, il y en a. De la bienveillance et de la compréhension. Il y a, madame, bonjour
tout d'abord. Bonjour à vous. Bonjour à tous.
Ce qui est formidable dans votre ouvrage, c'est qu'il n'y a rien de péremptoire. Et ça, c'est devenu une qualité très, très rare dans le monde médiatique, dans le monde de l'édition, et peut-être même dans les bistrots. C'est-à-dire qu'à tous les niveaux de la société, chacun a tendance à s'arc-bouter sur des petites certitudes qui sont brandies comme des oriflammes. Et tout cela peut nous mener très loin. En lisant votre livre, j'ai eu le sentiment de ne pas forcément être d'accord avec vous, mais parce que vous ne cherchez pas à convaincre, vous cherchez à susciter la réflexion, et peut-être même est-ce que vous cherchez à faire à travers ces chroniques, dont je précise qu'elles ont été écrites pour le journal La Montagne au cours des dernières années, c'est-à-dire de fin 2010 au printemps 2014. Est-ce que cette présentation, tout d'abord, vous agréez ou est-ce que j'ai fait fausse route?
Oui, elle m'agrée d'abord parce que vous présentez avec beaucoup de vous-même de bienveillance ce petit ouvrage. Mais la question de la bienveillance est une question pour moi fondamentale. J'avais eu l'occasion de l'aborder en rédigeant les notes que j'avais prises après plusieurs séjours dans un collège, dans un quartier un peu difficile de la ville de Toulon. Et je me disais, au fond, ce dont les enfants ont le plus besoin, ils ont besoin d'autorité, ça va de soi, mais d'une autorité bienveillante. Ils ont besoin de bienveillance, une bienveillance qui en même temps soit un peu directive, puisqu'ils sont jeunes, et ce sont des adultes qui sont là pour les former. Et je dois dire que les professeurs étaient d'accord d'être sollicités pour exercer cette autorité bienveillante. La bienveillance toute seule peut devenir faiblesse, l'autorité toute seule peut devenir précisément trop autoritaire. Essayez de mêler un peu les deux. Parce qu'on n'est pas là pour se faire la guerre, on est là pour surmonter des conflits, voir où ils sont aussi, le voir clairement, et puis s'aider mutuellement à les dépasser. Personne n'a intérêt à ce que nous terminions dans la violence.
Pour faire une rime facile, il faudrait donc conjuguer exigence et bienveillance.
Mais pourtant, c'est ce qu'il faudrait. Après tout, des parents, dans la famille qu'ils constituent, dans les rapports qu'ils ont avec leurs enfants, c'est quelque chose qu'ils, même s'ils ne le formulent pas comme ça, c'est quelque chose qu'ils aimeraient bien, au fond, être considérés comme une autorité pour leurs enfants, mais une autorité qui veut leur bien, une autorité qui veille à leur bien. C'est ça, je pense, aussi, la bienveillance. C'est pas seulement le regard, mais c'est aussi veiller au bien. Et les parents trop autoritaires, on se dit « je suis trop autoritaire, mes enfants ne vont plus m'aimer ». Je les aime tellement que je vais finir par me faire manger sur la tête. Non, ce mélange des deux. Je crois qu'à beaucoup d'endroits, l'autorité bienveillante compte. Je pense que, y compris le pouvoir politique, devrait être une autorité bienveillante. Et la combinaison des deux, c'est formidable. Mais c'est pas facile.
C'est tellement pas facile que souvent on a l'impression qu'ils ne sont ni une autorité ni bienveillants.
Voilà. Voilà.
On voit la preuve que les deux peuvent se concilier d'ailleurs.
Pour certains, ceux qui sont les plus démunis ou les moins bien placés dans la société, ils ont l'impression qu'on n'a aucune bienveillance envers eux et qu'on a uniquement de l'autorité. Et ceux qui sont mieux placés pensent que l'autorité, ben, elle est pour eux. Et quant à la bienveillance, ils peuvent s'en dispenser. Mais ça ne va pas. Ça ne peut pas aller.
Est-ce que vous n'avez pas même l'impression. La situation serait peut-être même pire, alors. C'est qu'il n'y a ni autorité, ni bienveillance.
Oui, bien sûr, finalement, ce serait le pire, ça.
C'est peut-être pas un couple si contradictoire, autorité et bienveillance.
Non, non. L'autorité bien comprise doit viser la bienveillance, puisque... Qu'est-ce que c'est l'autorité ? C'est pas le pouvoir qu'on exerce sur. C'est le fait... Faut pas oublier l'étymologie d'autorité. C'est le latin « auctor » qui veut dire « j'augmente ». L'autorité, c'est ce qui aide à croître, à se développer. D'où l'auteur, d'ailleurs, l'auteur d'un livre, c'est celui qui accroît, qui développe, qui augmente. Si c'est ça l'autorité, elle accroît, elle développe, elle augmente, elle ne peut pas être au détriment. Si je suis au détriment, détriment, c'est détruire, je n'accrois rien. Donc elle est forcément bienveillante, vous avez raison. La vraie autorité doit être bienveillante. Et la vraie bienveillance doit faire preuve d'autorité.
Écoutez, nous avons démarré cette émission de façon un petit peu spontanée. Du coup, j'ai même obligé de préciser que vous étiez membre de l'Académie française, que vous étiez écrivain, mais que vous avez été longtemps enseignante, professeur. Mmh. Je pense que nos premiers échanges vous ont révélé au fil de vos chroniques la volonté d'enseigner, mais surtout de transmettre occupe une grande, grande place. Est-ce que finalement, beaucoup des nœuds de notre société ne sont pas situés là, dans cette faillite de la transmission.
Oui. Bon, il est clair, tout le monde le dit, et on le voit dans des épisodes qui concernent d'autres pays européens, comme le Royaume-Uni, etc., qu'il y a une crise entre deux... une société, c'est bien plus complexe, mais disons tout de même, entre ceux qui sont... qui se considèrent comme étant en bas, ou à côté, ou auxquels on ne s'intéresse pas suffisamment, qui ne peuvent pas suffisamment se faire entendre, et de l'autre côté, ceux qui pensent que... tout de même, comment se fait-il qu'ils ne se font pas mieux comprendre ? Ben, quand quelqu'un pense qu'il ne se fait pas bien comprendre, la faute n'est pas dans celui qui l'écoute, la faute est dans celui qui parle. Si je ne me fais pas bien comprendre, ben je recommence. C'est ça que j'ai appris en étant professeur. Cet professeur, c'est pas distribuer quelque chose d'en haut, c'est tâcher de le faire comprendre. Et pour le faire comprendre, on recommence. On présente autrement. On présente sous un autre angle, avec d'autres exemples, avec un autre ton, jusqu'au moment où on pense que c'est un petit peu mieux passé. C'est ça aussi. Et ça, je crois qu'il y a un travail de compréhension, d'explication, d'élucidation. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'est pas soutenu par quelque chose qui plutôt fait le contraire. C'est le spectaculaire, ce qui fait des couvertures de journaux, ce qui fait des petites phrases qu'on répète en boucle dans les chaînes d'information continue, ça ne favorise pas du tout la compréhension et l'explication. Je prends un exemple. Personne, nulle part, à aucune télévision ne dit qu'au Royaume-Uni, un référendum n'a pas valeur constitutionnelle, mais seulement consultative. Si on le disait, ça éviterait de beaucoup s'énerver, d'entendre des gens qui sont contre, qui sont pour, et qui se lancent des accusations sur la figure. Disons cela, c'est une information énorme, ça. Pourquoi on ne la donne pas ? Ben, elle n'est pas spectaculaire, il faut la donner pourtant. J'ai pris un exemple très contemporain, parce que c'est ça qui m'intéresse. Disons qu'en France, le référendum, ça fait partie de la Constitution, c'est une voie d'expression démocratique. Au Royaume-Uni, non. C'est juste une consultation. C'est comme un sondage. On ne va pas se mettre la tête à l'envers parce qu'il y a eu un sondage.
Il faut... C'est un sondage grandeur nature, quand même.
Ben oui, mais c'est tout de même un sondage. C'est tout de même rien de plus. Eh bien, quand je l'ai appris, moi, en lisant un article sur ce sujet, je me suis empressé de l'envoyer à tout le monde, en disant « ça va t'intéresser, tu ne le savais peut-être pas ». On me répond « je ne le savais pas, ça m'intéresse ».
Il est certain qu'une part du problème de la transmission est la pente naturelle, ou peut-être entraînée par la technique, la révolution des technologies de l'information, qui pousse quand même à une forme de, excusez-moi de ce mot anglais, de zapping, de superficialité,
oui, oui.
Une information en chasse une autre. Tout cela n'est certes pas très neuf, mais est-ce que plus profondément, n'y a-t-il pas une crise de la transmission ? On en parlait dans le cadre de l'éducation nationale au départ, mais au-delà, dans la société tout entière. Si vous me permettez,
je vais
lire un court extrait d'une de vos chroniques, parce qu'elle me semble extrêmement éclairante. C'est une chronique qui est consacrée à la crise de recrutement de l'éducation nationale. Vous expliquez que les causes généralement admises, c'est les émoluments des professeurs, peut-être pas assez suffisants, l'ambiance un petit peu délicate dans certaines classes ou zones d'éducation. Tout cela, dites-vous, est vrai, mais il y a peut-être une cause plus fondamentale. Et là, je commence à vous citer. On pourrait y ajouter une autre cause, plus profonde peut-être. C'est la crise de la transmission en général. Que transmettre ? Comment transmettre quand une suspicion générale règne sur la valeur même de la transmission ? Quand on ne cesse de lire ici ou là que nous n'avons rien à leur enseigner, mais tout à recevoir des jeunes. Quand on voit bien que dans les familles mêmes, le pacte généalogique est souvent rompu ou du moins troublé, incertain. Ce pacte généalogique dont l'enseignement reçoit la mission de la part de l'État, de la part de la société, de la part de chacun de nous, c'est très simple au fond. C'est le devoir qui incombe à une génération de transmettre le monde à la génération qui arrive. On a changé d'échelle de compréhension du problème.
Oui, mais là, il y a quelque chose qu'il faut comprendre, qu'il faut essayer d'analyser, d'expliquer. Je comprends très bien qu'on soit sorti d'une époque que j'ai pu connaître quand j'étais enfant, et qui était encore plus... C'était encore plus radical encore avant. C'est l'idée que l'enfant tais-toi et tu te tais à table, tu écoutes les adultes, tu ne contredis pas, tu ne prends pas le contre-pied, tu écoutes, tu te tais et tu écoutes. On ne peut pas demander... On peut peut-être aujourd'hui, on a rompu ce rapport-là, là, et c'est peut-être bien en un sens, mais on est passé, au fond, ce qui est un peu normal, c'est presque tout le temps comme ça dans l'histoire de la société, on est passé à l'extrême inverse. Je me souviens, j'étais un jour dans un studio d'une radio étrangère, de langue française, et on faisait entendre quelque chose. Et tout à coup, on fait entendre un chanteur et rappeur que j'aime bien, et qui dit, dans ce qu'il chantait, aux jeunes, je n'ai rien à apprendre, j'ai tout à apprendre d'eux. Et on m'a dit, qu'est-ce que vous en pensez ? Je dis, ou bien il le pense vraiment et c'est dommage pour les jeunes, ou bien c'est par démagogie qu'il dit ça pour plaire. J'espère que non, mais si c'est pour leur plaire, c'est pas bien. Ce n'est pas vrai qu'on a tout. On a beaucoup à apprendre des jeunes, on a beaucoup à apprendre de tout le monde. Mais si on est un adulte, on a d'abord, avant tout, à transmettre. Et on ne peut pas se permettre de dire, moi j'ai rien à t'apprendre, c'est toi qui m'apprendras tout. Ce n'est pas vrai. Je vous dis, ou bien c'est de la démagogie, ou bien c'est un péril très grand pour la société en général.
Si vous me permettez de faire part d'une expérience personnelle, moi je suis un enfant de baby-boomer, c'est-à-dire mes parents sont de la génération 68, mes professeurs étaient de la génération 68. Vous avez utilisé le mot démagogie. Moi j'ai eu le sentiment d'être confronté à un monde d'adultes qui effectivement était plus dans la séduction que dans la transmission. Et que donc, on était un petit peu laissé avec un poids terrible. C'est-à-dire que ce n'était pas vécu par moi-même et par beaucoup de mes camarades comme une libération, mais plutôt comme un poids terrible. Réinvente le monde. Non, je n'ai pas très envie de réinventer le monde.
D'ailleurs, on ne peut inventer que sur quelque chose qu'on a déjà reçu ou acquis, qu'on va transformer. Et là, oui. Ensuite, ouvrir sur quelque chose de totalement ouvert et différent, de totalement différent, oui, mais à condition que quelque chose vous apporte. Mais qui est libéré par ça ? Ce n'est pas l'enfant, ce sont les parents, qui se trouvent libérés de deux choses, de ce qu'ils considèrent comme, au fond comme un travail, parce que c'est un vrai travail, c'est un fardeau, et puis qui sont libérés aussi de toute accusation d'être traditionnel, etc. Et ça, il a fallu se libérer de tout ça. Et je pense qu'il fallait probablement construire à travers des époques différentes, après 68, etc., probablement des rapports un peu différents, mais peut-être que c'est fini, mais les dommages ont été importants, ont été considérables. Et il y a des gens jeunes, comme vous, qui pensent qu'après tout, ils n'en auraient pas tellement souffert si les parents avaient été moins cool. N'est-ce pas ?
Exactement.
Je le crois vraiment. Je crois vraiment, parce qu'on le sait bien, j'ai des souvenirs d'enfance et d'adolescence, d'avoir eu des moments un petit peu de confrontation avec mes parents, des difficultés, etc. Mais c'est normal, c'est comme ça qu'on se forme. Alors, ils pouvaient avoir tort parfois, la plupart du temps, c'est plutôt moi qui avais tort, mais on se forme mutuellement aussi, les parents progressent à travers
ça. Oui, c'est une dialectique.
C'est une dialectique, absolument.
Pour en revenir cette crise de la transmission, où vous avez dit à un moment, ça permet aux parents d'éviter d'apparaître trop traditionnels. Il est vrai que l'arrière-fond d'analyse de tout cela dans notre société, c'est de penser qu'avoir un héritage, des racines et autres, c'est propice à un enfermement. Au fil de vos chroniques, vous nous démontrez, non seulement en l'expliquant, mais aussi par votre ouverture d'esprit, que c'est le contraire.
Mais c'est
la culture permet d'ouvrir.
Mais c'est ce que je pense. Et du coup, aujourd'hui, on assiste à des retours identificatoires, de traditions, d'identité et d'identification qui sont extrêmement violents, précisément parce qu'il y a eu ce trouble dans la transmission. Et évidemment, c'était inévitable. Et il n'est pas partout, mais elle est dans certaines tendances, à la fois politiques, sociales, elle est forte, nos valeurs, notre tradition, notre identité, etc., sont réclamées maintenant avec une espèce de terreur, comme si c'était impossible, et alors pour le faire, on ferait n'importe quoi pour le faire. Alors le pire, c'est qu'aujourd'hui, parce que comme il faut toujours être l'identité se construit par rapport à soi-même, mais aussi par rapport à d'autres, on va trouver des boucs émissaires par rapport auxquels on dira « Eux, c'est pas notre culture. Nous, notre culture, c'est. » Et là, ça devient très dangereux. Parce que là, on ne construit plus rien ensemble. On ne construit plus rien ensemble avec des gens qui sont repérés comme n'ayant pas la même identité ou la même tradition, ou la même culture.
Et du reste,
oui.
Que leur apporter? Si on a considéré que
voilà,
nous n'avons plus rien,
oui, mais
si nous ne sommes plus rien,
voilà,
que
on
leur
a rien
apporter.
À apporter, mais en même temps, leur reproche ne doit pas être comme nous.
Voilà.
Faudrait quand même comprendre ce qui se passe.
C'est
là.
Le nœud de la contradiction.
Il y a une contradiction totale, là. Ou bien on pense que notre culture à nous, elle n'apporte rien à personne, donc pourquoi s'opposer à une qui a... Eh bien, au contraire, notre culture est la seule avec des majuscules et des guillemets. Alors, dans ce cas-là, voilà. Donc, à mon avis, ce qu'il faut, c'est d'abord de la patience, là aussi, et de la bienveillance.
Mais est-ce que,
là aussi, de la bienveillance.
Alors, c'est une hypothèse qui me vient, c'est une fulgurance ou une erreur peut-être, parce qu'elle me vient comme ça. Est-ce que finalement, l'une des contradictions à laquelle nous sommes confrontés n'est pas que, précisément, d'une part, nous nous sentons d'autant plus menacés par la culture des autres que nous avons déjà abandonné la nôtre, alors qu'effectivement, ceux qui arrivent sont davantage quand même à certains égards dans le fil d'une tradition, ce qui ne veut pas dire nécessairement quelque chose de figé, mais quelque chose de vivant.
Oui.
Première hypothèse, et seconde hypothèse, encore plus vertigineuse, est-ce que le raisonnement souvent mis en avant, que pour accueillir l'autre, nous serions mieux placés en étant en quelque sorte neutres, n'est pas une formidable erreur.
Mais bien sûr.
C'est-à-dire est-ce que aujourd'hui, souvent, nous caractérisons notre société juste par des mots qui n'ont pas de contenu en eux-mêmes et de sens. Nous sommes ouverts aux autres. Même, je sais que vous êtes pour avoir lu votre livre, vous défendez très fortement la laïcité.
Oui.
Mais est-ce que le contenu, en quelque sorte, je l'ai pas négatif, mais cette
mais
forme de neutralité de la laïcité,
mais moi,
n'empêche
ce que je
pas
défends.
Un vrai dialogue.
Moi, ce que je défends, c'est que une société, pour qu'elle soit viable, il faut qu'elle constitue un espace qui soit neutre. Qu'est-ce que ça veut dire neutre ? C'est-à-dire qu'il peut accueillir des gens différents. Il peut accueillir des gens différents dans l'hypothèse qu'en les accueillant, on construira une possibilité de vivre ensemble. Il ne faut peut-être pas non plus exiger si vite, si autoritairement, de gens qui sont déplacés ou qui viennent d'ailleurs ou qui sont parfois dans des conditions d'accueil qui ne sont pas toujours socialement extrêmement favorables, etc., qui donc peut-être sont tentés par un certain repli vers des choses qui sont d'avant, même pour eux, c'est d'hier, ce n'est plus tout à fait d'aujourd'hui, mais qui vont les réconforter. Après tout, peut-être que si on vit, je ne sais pas, dans la ceinture de Paris, les tramways s'arrêtent, il faut prendre ensuite un bus, puis ensuite finir pendant 25 minutes à pied, arriver dans un endroit où la dalle de béton est bordée de magasins qui ont tous fermé l'année dernière parce qu'il y avait des actes de vandalisme, les appartements plus ou moins rénovés et tout. Bon, on se sent un peu fragile socialement, etc. On sent bien qu'on n'est pas trop bien vu. Alors on va se replier sur des valeurs identitaires. Soyons patients, prenons un peu de temps. En France, cette laïcité dont on parle, elle ne s'est pas établie du jour au lendemain. On a traversé des guerres de religion, on a traversé la réforme, l'édit de Nantes, sa révocation, etc. Dieu sait que ça a laissé des traces en France. Au bout du compte, depuis une centaine d'années, un grand apaisement s'est produit. Entre ceux qui croient, ceux qui ne croient pas, ceux qui pratiquent une religion, ceux qui croient sont pratiqués, ceux qui n'en pratiquent pas. Et ça se passe plutôt bien. Il y a des petits moments où ça chauffe, au moment des affaires de morale publique et sociale, les histoires de mariage et tout ça. Là, ça a un petit peu... Mais autrement, ça marche plutôt bien. Mais soyons un peu patients. Soyons un peu patients. Ne soyons pas absolument bouleversés d'horreur parce que nous aurons vu une femme qui porte, je ne parle pas du voile intégral, mais qui porte un fichu sur la tête. Bon, elle porte un fichu sur la tête. A-t-elle raison de le faire ? Je préférerais qu'elle ne le porte pas, peut-être. Mais si elle le porte, peut-être un jour elle cessera de le porter. Si je la stigmatise, si je passe mon temps à dire « Attention, une femme va aller, si je la regarde comme ça dans le bus », je vais créer un réflexe qui sera « Vous ne m'aimez pas ? Eh bien, j'en rajoute. » Donc, soyons plus patients, soyons bienveillants. Là où l'autorité doit se manifester, c'est qu'en effet, on ne peut pas proposer à la France des lois qui sont autres que les lois de la République, de la Constitution, du vivre ensemble. Mais sur le plan privé, individuel, chacun a le droit. Moi, j'étais frappée ce matin. Je viens pour prendre le bus et venir à l'Institut. Je croise un jeune homme qui porte un short. Bon, tout le monde porte des shorts en ville. Déjà, pour moi, je trouve que ça ne va pas tellement. Je ne veux pas lui dire de ne pas le porter. Mais surtout, il porte un en haut. Une sorte de, j'appelle ça un t-shirt, une sorte de chose extrêmement décolletée devant, derrière et sous les bras. Je me dis, c'est pas tellement joli de s'habiller comme ça en ville. Et je me dis, c'est curieux. Pendant que d'un côté, on reproche à une certaine population de se couvrir de plus en plus, les femmes des jupes longues, des fichus, etc. Dans la nôtre, on se découvre de plus en plus. Dès qu'il fait beau, les femmes sont à moitié nues, les garçons aussi. On me dira, ah mais c'est beaucoup mieux d'être à moitié nue que d'être couvert d'un voile. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est beaucoup mieux. C'est tout. Je ne sais pas si c'est mieux. J'avais une chronique à faire, je la ferai sur ce sujet. Chez nous, on se dévoile de plus en plus et on est choqué parce que des femmes se voilent. Bah, essayons de comprendre, d'être bienveillants. Moi, j'en veux pas, ce garçon qui était habillé comme ça, mais je pense qu'il aurait pu être habillé autrement dans une ville. Il n'aurait pas eu tellement chaud. Il faisait 8 heures, 16 degrés. Il aurait pu avoir une chemise. C'était plus joli.
Certainement. Je partage votre avis. Pour creuser, ce que je voulais dire, c'est que au-delà de ces règles que vous avez définies, le vivre ensemble, ce sont des modalités du vivre ensemble. Notre culture ne se limite pas à cela. Lorsque vous déplorez que l'on abandonne non seulement l'enseignement du latin, mais du trésor qui était véhiculé par le latin, est-ce que finalement, pour accueillir l'autre, il ne faut pas d'abord être un peu plus assuré de ce qu'on est? Est-ce que notre crainte, et du coup notre agressivité, toute personne qui a peur devient naturellement agressive, tout éthologue nous l'expliquerait, ne vient pas du fait qu'ayant été quelque peu dépossédé de notre héritage, nous nous sentons menacés par des gens qui en ont un encore?
Oui, et aussi parce que, c'est aussi parce que dans l'histoire, la manière dont nous étions de grande puissance supposait une présence dans le monde qui s'appuyait aussi sur notre présence dans des zones entières, des continents, des régions entières du monde, dans lesquelles nous avions des rapports qui étaient, allons, disons le mot, inégalitaires. Je ne dis pas du tout que quelqu'un, parce qu'il est le petit-fils d'un Africain ou d'un Marocain, doit tout le temps nous dire « Attention, tu es un ex-colonisateur, je t'aurai au bout de mon fusil ». Non, surtout pas. Mais n'oublions pas, nous, que nous avons été présents dans le monde et exerçant dans le monde une domination constante, régulière, qui avait des fins, qui pouvait apporter forcément, secondairement, quelques bénéfices, mais qui, au départ, n'étaient pas faites pour ça. Étaient faites pour conquérir des terres, avoir du sous-sol, des richesses, etc. Bien, ça c'est fini. Nous devons renoncer à cette domination. Bien,
c'est fait.
C'est fait. Mais n'oublions pas que nous avons affaire à des pans entiers du monde qui sont sortis de cette domination-là et qui donc se retrouvent en Occident, en Europe, dans des conditions qui font que, eh bien, ça se réveille. Il ne faut pas craindre le réveil du passé. Il ne faut pas dire « arrêtez de nous parler de tout cela ». Non, il faut ne pas non plus vouloir en tirer des droits excessifs, mais il ne faut pas non plus faire le silence là-dessus. C'est une réalité historique. L'Europe n'est plus tout à fait au centre du monde. Nous ne sommes plus au centre du monde. C'est un ouvrage de quelqu'un, là, récemment. Nous ne sommes plus au centre du monde. Ben, c'est vrai. Il faut en tenir compte.
Peut-être même nous sommes-nous illusionnés.
Pardon ?
Peut-être même nous sommes-nous illusionnés sur cette centralité.
Mais c'est même mieux de ne plus être au centre du monde, car ça n'avait pas que de bons effets. On a cru pendant longtemps que la Terre était au centre du monde et que le Soleil tournait autour. C'est fini. Bon, eh bien, sur le plan social et politique, c'est ça aussi. Nous ne sommes plus au centre du monde. Nous sommes à égalité avec des peuples. Oui, c'est dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est vrai. Mais dans la pratique, c'est encore très compliqué,
ni
cette question-là.
Ni objet d'admiration, ni Exactement. Objet de récrimination.
Voilà. Égalité. Une vraie égalité. Et ça, c'est difficile. Et forcément, ça crée des déséquilibres, des frictions, des revendications identitaires. Bon, moi, je me prenne beaucoup en France. Je trouve que les Français sont beaucoup plus assurés de leur identité qu'on ne le dit. Ils sont très contents de leur pierre, de leur maison, de leur festival de vieilles pierres, de leur goût de l'histoire, de leur goût des rivières, de la pêche à la ligne, de la gastronomie. Mais ils sont ouverts aussi à beaucoup de choses. Moi, franchement, je vais vous dire, je ne crois ni au déclin, ni non plus à une espèce de pessimisme français. Je pense qu'on a de grandes difficultés, à la fois économiques, financières, c'est vrai, parfois sociales. Mais je crois qu'autrement, il y a des pays qui en ont davantage encore, et puis je crois qu'autrement, on a un rapport sain avec tout cela. Il suffit de s'y promener un peu, voir le nombre de festivals, de rencontres, de choses où sont exaltées, je dirais même pas l'agriculture, parce qu'elle est en vraiment vraie difficulté, mais disons les plantes, le goût de les cultiver, de les aimer, de les faire cuire, de les manger. Non, c'est très très présent. La France est un pays extrêmement, je trouve, très sûr de lui-même. Je ne comprends pas, quand je lis toutes ces couvertures des magazines où tout le temps vous explique que les Français sont pessimistes, qu'ils n'en croient plus à rien, etc. Moi, je ne crois pas du tout. Je crois qu'ils y croient encore très bien. Mais on leur dit tout le temps qu'ils devraient être pessimistes. Alors, ils finissent par se tâter, comme quelqu'un dit, tu sais, le corps humain, c'est pas solide. Ah bon, mais je suis peut-être malade. On en fait des hypochondriaques, alors qu'on ne l'est pas.
Mais est-ce qu'il n'y a pas cette forme d'ambivalence dans notre image de nous-mêmes? Justement, on a un rapport un peu particulier au surmoi, quand même. Enfin, je sais pas, De Gaulle disait, les Français ne sont eux-mêmes que dans la grandeur.
Ça leur arrive. Ils sont petits, parfois, aussi.
Oui, c'est pas une espèce d'héritage messianique qui est un peu lourd à porter, quoi.
C'est vrai.
La France qui est fille aînée de l'Église, ensuite, elle doit porter les lumières dans le monde entier.
Et les droits de l'homme.
Alors qu'ensuite, quand on réalise que finalement, tout le monde, comme vous l'avez dit, le monde est un peu plus plat, tout le monde est sur un pied d'égalité, c'est peut-être plus difficile à gérer que si on est, pas... Belge ou Suisse, par exemple.
Oui, mais peut-être qu'aussi, je serais parfois sévère à l'égard d'un certain type d'intellectuel qui s'est affirmé en France, dans les médias, dans les journaux, etc., en jouant beaucoup sur la carte du catastrophisme, du déclin, de la France est perdue, un jour ou l'autre, on va être tous remplacés par des musulmans, etc. Mais je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un délire pur. On en est encore très, 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 très loin, en admettant même que ce soit une possibilité. Il faut tenir bon sur certains points. Il faut, si on a une mosquée dont les prêches ne nous conviennent pas, il faut avoir la rigueur de la fermer. Mais pour autant, on ne va pas penser que du jour au lendemain, tout Paris va retentir, non plus des cloches de Notre-Dame, mais de l'appel des muezzins. Allons, voyons.
Oui, mais d'ailleurs, je pense que l'angoisse dont vous parlez, elle va peut-être au-delà de ça. D'ailleurs, on a quand même un rapport un peu particulier à la postmodernité. Il y a des moments où vous parlez du roman national, on a besoin de ça, une sorte d'épopée.
C'est vrai, on en a besoin aussi.
Et la postmodernité qui postule que c'est la fin des grands récits,
ça ne nous aide pas.
Oui, c'est-à-dire que ce monde régit sous une forme de pragmatisme qui est celui du marché. On est mal à l'aise avec ça.
Oui, mais ben, je pense que c'est quand même, en fait, c'est cette dilution aussi dans le fait que tout devient valeur marchande, tout est échangeable, tout est monnayable, et où on ne prend pas de rendez-vous pour le lendemain parce qu'on a 5 possibilités, on attend au dernier moment pour savoir quel rendez-vous on va prendre. Donc ça, évidemment, est inquiétant, c'est sûr. J'ai du mal à être pessimiste, c'est-à-dire que je me dis qu'il y a une recomposition qui est en train de se faire, qui est énorme. Moi, je suis contente d'assister à ça. j'ai l'impression de voir une recomposition considérable de choses qui étaient à peu près... Alors, quand je lis des livres qui se passent en 1930, ou en 1910, ou en 1880, ben, je me dis que c'est bien, parce que beaucoup de choses se sont déplacées, se recomposent autrement, et bon.
Il y a des pages qui m'ont beaucoup plu, ce sont celles que vous consacrez au début de vos chroniques, sur la façon dont beaucoup de nos contemporains quittent, c'est un peu triste, mais enfin, quittent le domaine du roman dans leur lecture pour aller vers le domaine historique, parce que, dites-vous, le récit, le souffle de l'histoire et du réel a quitté, pour deux raisons que vous allez nous expliquer si vous voulez bien, le domaine de la littérature pour du coup se réfugier dans l'histoire elle-même. Est-ce que ce n'est pas un des reflets du vrai malaise français?
Mais ce qui me frappe, c'est que quand j'ai fait cette chronique, c'est il y a 3-4 ans à peu près, il y avait déjà des signes de choses qui changeaient un peu. Et moi, je suis frappée, faisant partie de plusieurs jurys littéraires, je reçois beaucoup de livres au printemps et pendant l'été, je m'aperçois qu'il y a une vraie recomposition de ce côté-là et que je reçois de plus en plus de romans, y compris là, dans les derniers temps, qui s'intéressent à une période de l'histoire. Un problème, par exemple, je ne sais pas, de recomposition du territoire. Je viens de lire un roman formidable qui raconte ce qui se passe dans une banlieue parce qu'on a décidé qu'il fallait supprimer une barre d'immeubles. Ce qui est une bonne idée, c'est un viva. Oui, mais les gens, c'est leur vie. On touche à leur existence et ils ne veulent pas. Et c'est un roman formidable. Eh bien, on est sorti du roman trop psychologique, trop enfermé sur les problèmes de son narrateur, pour s'ouvrir à tout cela. Et ça, pour moi, c'est la meilleure des nouvelles, c'est que le roman va reconquérir tous ces territoires. Parce qu'il en parle beaucoup mieux qu'un dossier, beaucoup mieux qu'un rapport, quand il en parle. Là, j'ai compris des choses sur une municipalité pleine de bonnes intentions, qui se plante, comme on dit aujourd'hui, il n'y a pas d'autre mot. Des réactions violentes, parfois de gens pas très sympathiques dans ces banlieues, c'est pas tous des bisounours, mais qui finissent par prendre en otage un adjoint au maire, etc. Puis tout ça, c'est... Bon. Parce que ce sont des vrais conflits. Et le roman prend ça en charge. C'est merveilleux, ça. Il nous le fait comprendre, comme aucun rapport ne le fera comprendre.
Écoutez, nous avons commencé cet entretien sur le problème de la transmission et nous allons le finir sur cette idée de narration. Peut-être que la narration, c'est l'antidote à ce déficit de transmission.
Je le crois vraiment. Je crois qu'il faut que chacun de nous, d'abord, mais les êtres humains adorent raconter. Quand vous perdez du temps à la boulangerie, s'il y a une dame devant vous qui, au lieu de prendre son pain, raconte quelque chose qui lui est arrivé au marché. Et tout le monde regarde sa montre. Mais elle en a besoin. Et tout le monde en a besoin.
Et tout le monde écoute.
Et tout le monde écoute. Et je pense que cet art de raconter, on reprend, on a une prise sur quelque chose, on existe à travers ce qu'on raconte, on donne un point de vue, on le confronte avec d'autres. Pour moi, c'est vraiment ça la démocratie. C'est des récits qui se complètent, qui s'affrontent, puis qui s'écoutent quand même. Oui, il faut les écouter.
Eh bien, j'ai l'impression que c'est l'esprit même de votre ouvrage, car ce sont des chroniques, mais alors... Nous avons parlé du rôle quand même de l'autorité, mais ce n'est jamais la posture que vous prenez dans vos chroniques.
Non.
Au contraire, car on sent qu'en captant l'air du temps, les débats qui traversent la société, vous donnez votre avis, certes, mais surtout vous dialoguez avec nos contemporains, avec tout un chacun.
Je vois un monsieur qui est en train de regarder, je ne comprends pas ce qu'il regarde par terre. Parce que dans un talus près de la bibliothèque de l'Arsenal, il est en train de pousser au printemps des petits crocus à tête blanche. Et dans l'enfer urbain, ça roule de tous les côtés, ça klaxonne. Et lui, il est fasciné par cette petite pousse qui sort. Je vous dis, le fait que je l'ai regardé, que je le raconte, ça fait partie de cette contribution que j'estime donner à chacun de nous, à la vie ensemble. Et je pense que c'est pas perdu, ça, loin de là.
Je vous remercie d'avoir parlé de cette chronique-là. C'est l'une des plus belles et des plus poétiques, en tous les cas. Et ça démontre qu'effectivement, au-delà de toutes ces idées qui peuvent créer des tensions, des débats et autres, effectivement, il y a, si l'on prend un peu de recul, des grands cycles qui nous rassemblent tous,
absolument,
des émerveillements qui nous
absolument
rassemblent tous,
absolument,
comme l'éruption de ce petit crocus dans un sol encore givré,
exactement,
observé par quelqu'un qui l'était un petit peu aussi, mais ne le sommes-nous pas tous.
Tous un peu
finalement,
givré, Dieu merci.
Un peu givré. C'est ce qui fait aussi la beauté de la vie, et j'invite tous nos auditeurs à passer l'été en compagnie de Daniel Salnave, en dégustant au fil des jours, comme il le faut, et peut-être même dans le désordre, ces chroniques du XXIe siècle, de façon à se réconcilier avec une époque qui est à la fois dure et passionnante, mais dans laquelle il reste quand même beaucoup de possibilités de s'émerveiller.
Je le pense aussi. Merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous.